VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Libreville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Kenya, le gouvernement kenyan a interdit les manifestations dans le centre d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu après l'appel de l'opposition à de nouveaux rassemblements quotidiens avant la présidentielle du 26 octobre. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiagi, a expliqué l'interdiction de manifester par la menace de troubles à l'ordre public. Il a rappelé que le droit à manifester ne doit pas violer les droits des autres. Monsieur Matiagi a également précisé qu'il est de la responsabilité des organisateurs de s'assurer que les manifestations se déroulent dans le calme. Il a annoncé des poursuites contre Norman Magaya, directeur exécutif de la coalition d'opposition NASA. L'opposition a prévu des rassemblements quotidiens à partir de la semaine prochaine pour accentuer la pression sur la controversée commission électorale. Raila Odinga s'est retiré de la présidentielle du 26 octobre, arguant que cette commission n'a pas entrepris sa refonte pour organiser une élection crédible. Depuis, l'opposition a multiplié les ultimatums et le pouvoir a engagé une modification de la loi électorale adoptée par le Parlement. Le texte prévoit que les résultats acheminés manuellement prévalent sur ceux transmis électroniquement, une porte ouverte à la fraude, selon l'opposition.
Au Libéria, les premiers résultats de la présidentielle de mardi, toujours attendus ce jeudi. La Commission électorale nationale ayant reporté leur publication prévue hier en invoquant des défaillances en matière d'organisation. L'incertitude demeure donc sur la tenue d'un éventuel second tour si aucun des 20 candidats ne l'emporte dès le premier. Les deux favoris, le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant Joseph Boakai, semblent se détacher de leurs concurrents d'après les résultats partiels provisoires diffusés par les radios. Mais la commission électorale a réaffirmé aujourd'hui qu'elle était le seul organe habilité à publier des résultats et elle a mis en garde contre la diffusion d'informations non validées.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Rwanda a encore une fois rejeté comme sans fondement le rapport de l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, qui accuse l'armée rwandaise de torturer pour obtenir des aveux de suspects détenus illégalement. Les détails avec Morgane Guiriek.
Johnson Businge, ministre rwandais de la justice, avait déclaré mardi ne plus répondre à Human Rights Watch et que ces accusations, comme toujours, sont des mensonges qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme mais uniquement combattre le Rwanda. Hier, dans un communiqué, M. Businge ajoutait qu'il n'y avait aucune preuve crédible de ces accusations, que le Rwanda est signataire de la Convention contre la torture et la respecte. Human Rights Watch a affirmé avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement, dont une majorité ont été victimes de tortures, bastonnades, décharges électriques et simulacres d'exécution dans des centres de détention entre 2010 et 2016. À la mi-juillet, l'ONG avait publié un autre rapport accusant les forces de sécurité d'avoir exécuté au moins 37 petits délinquants dans l'ouest du pays. Kigali a toujours rejeté catégoriquement toutes ces accusations.
Les États-Unis se retirent de l'UNESCO, accusant l'organisation d'être anti-israélienne. La patronne de cette institution onusienne a immédiatement réagi. Abdourahmane Dia.
La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a dit regretter profondément le retrait américain. Pour Irina Bokova, l'universalité est essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationale face à la haine et à la violence par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le retrait sera effectif à compter du 31 décembre 2018. Washington précise que cette décision n'a pas été prise à la légère et reflète les inquiétudes des États-Unis concernant l'accumulation des arriérés à l'UNESCO, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'organisation et ses partis pris anti-israéliens persistants. Washington avait prévenu début juillet de son intention de réexaminer ses liens avec l'UNESCO après sa décision de déclarer la vieille ville de Hébron en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial. Une décision que n'avait pas appréciée Israël, grand allié des États-Unis. Washington avait déjà arrêté de participer au financement de l'UNESCO en 2011 lorsque l'agence avait admis les Palestiniens parmi ses États membres.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Blanche Sanou avec vous pour la Minute Éco. Au Kenya, un fonds de 6,4 millions de dollars a été alloué à des banques de moyenne importance par la fintech américaine Lendable, une entité spécialisée dans l'octroi de petits prêts. Ces fonds sont destinés à financer des petites et moyennes entreprises kenyanes qui les utiliseront pour développer leurs opérations et lancer de nouveaux produits sur le marché. Au Cameroun, la première boutique Carrefour verra le jour bientôt à Douala avec 350 emplois directs à la clé ainsi que la valorisation des filières agricoles. À travers ce programme, ces investisseurs français ambitionnent d'investir environ 309 milliards de francs CFA dans la construction de 20 centres commerciaux à travers l'Afrique. La Banque islamique de développement vient d'approuver un financement de 268,2 millions de dollars au profit de projets de développement en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Selon APA News, ce programme prévoit un financement à hauteur de 146 millions de dollars pour le Sénégal qui servira à moderniser des villes secondaires ainsi qu'un montant de 41 millions de dollars alloué au Niger pour le renforcement du système de santé.
Pour chacun, VOA Afrique.